Le 13e congrès de l'UNIS, du 14 au 16 décembre 2022 à Pau, sur Radio Imo.
Bonjour, bienvenue à tous. On est toujours en direct du 13e congrès de l'UNIS. Ça se passe à Pau, Palais Beaumont, en plein cœur de la capitale du Béarn. Et on est ravis d'accueillir la première table ronde de cette journée. On va insister, bien sûr, sur l'avenir. Quel avenir pour nos professions? C'était le thème de cette première table ronde qui a eu lieu il y a quelques minutes. On est ravis d'accueillir à nouveau Julie Joannin. Bonjour Julie.
Bonjour.
Présidente de l'UNIS Pau Béarn. Vous êtes très bien entourée à vos côtés. Jean-Luc Liotot, président de l'UNIS PACA.
Bonjour.
Qui est venu en voisin. Mais ce n'est pas tout. L'Île-de-France est également là. La personne de Benjamin Darmoudi. Bonjour Benjamin.
Bonjour Fabrice.
Président délégué de l'UNIS Île-de-France. Et François-Emmanuel Borel, également président délégué d'Île-de-France. Bonjour François Emmanuel. Julie, on démarre avec vous. Voilà, mais oui, c'est bon, on est chez vous, qu'est-ce que vous voulez? Donc on vous donne la parole, bien évidemment. C'est vrai que c'est une question d'importance, là, l'avenir de ces professions. On a tout à l'heure parlé un petit peu de formation, d'attractivité des métiers qui ne se dément pas. Et cette question, vous venez de débattre, quel avenir pour vos professions? Quelle est la dynamique, en fait, du sujet? Qu'est-ce que vous avez raconté pendant ces trois quarts d'heure de conférence?
On a raconté beaucoup de choses, mais c'est vrai que c'est une analyse qui est impérative et qui est importante parce que nous avons des métiers, on a plusieurs professions et métiers donc dans l'immobilier qui sont en perpétuel mouvement. Donc il faut arriver à s'adapter, il faut arriver à s'adapter rapidement, à l'intégrer, à le démocratiser auprès de nos collaborateurs. Et effectivement, ça demande de coller tous les jours que Dieu fait au changement qui s'applique dans nos métiers. Donc voilà, donc ça c'était vraiment très important à débattre ensemble. Et alors après Benjamin vous expliquera un petit peu plus le contenu, mais c'était voilà, des échanges très intéressants.
Alors Benjamin, allez, on vous avait fait la passe, bien sûr, une passe en arrière de rugby. Allez-y, de quoi on a parlé? Pourquoi c'est si important et quels sont les principaux messages?
Non, l'enjeu de l'avenir de nos professions, c'est de savoir... est-ce que les professionnels doivent encore prouver leur utilité? Personnellement, je pense que non. Je pense que les professionnels, aujourd'hui, dans le contexte actuel, sont incontournables. Parce que les particuliers ont besoin d'être accompagnés. Ils ont besoin d'être accompagnés avec une inflation forte, avec des prix qui baissent, avec une transition énergétique qui leur demande de révolutionner tous leurs appartements en un temps record. Et vous voudriez que les particuliers fassent sans les professionnels et qu'on dise qu'aujourd'hui les professionnels ne sont pas utiles.
Et pourtant c'est le cas puisque votre premier concurrent avant les différents réseaux, je passe les querelles, agents, mandataires, etc., c'est le particulier lui-même qui vend son appart en direct. Et souvent il en revient.
Était. Plus le temps passe, plus ils perdent des parts de marché. Pourquoi? Parce que plus les particuliers se rendent compte à quel point le professionnel apporte un savoir-faire est formé pour apporter ce savoir-faire et donc a une utilité. En conséquence de quoi, oui, nous pensons que les professionnels aujourd'hui, avec un contexte comme celui-là, sont incontournables.
Les professionnels, Jean-Luc Liotot, comme on a dit, il y a beaucoup de gens et beaucoup d'appelés, parfois peu d'élus, parce qu'il y a des gens qui s'essayent à la profession, qui voient combien c'est compliqué, combien c'est complexe, combien il faut maîtriser aussi ce métier qui est passionnant mais exigeant. Là aussi, c'est un véritable enjeu de professionnaliser ce métier pour que vous deveniez encore plus incontournable.
Tout à fait. Alors, ce métier est déjà très professionnalisé, mais effectivement, nous devons nous adapter en permanence au terrain et donc améliorer sans cesse, je dirais, le service. Nous sommes une société où les copropriétaires, locataires, propriétaires ont une grande attente du service qu'on peut leur apporter. Je ne parle pas des conciergeries, je parle effectivement du service professionnel. On parlait, la simple preuve, c'est qu'effectivement, on parlait de la transaction tout à l'heure. Nous étions à peu près à 45% de couverture des marchés de la transaction. Nous en sommes maintenant à près de 70%. Ça veut bien dire que les vendeurs et les acquéreurs se sont rendus compte qu'effectivement, vendre un bien, ce n'est pas aller au supermarché et acheter quoi que ce soit. C'est une véritable démarche professionnelle qui engage la responsabilité du vendeur et de l'acquéreur.
Alors, comparaison n'est pas raison, mais on est dans des pays anglo-saxons où ça ne viendrait même pas à l'idée des particuliers. Je crois qu'on est à 98-99%.
Tout à fait. Absolument.
Donc, il y a encore un peu de chemin.
Il y a encore une marge de manœuvre. Et heureusement, ça prouve que ça nous laisse, encore une fois de plus, un avenir devant nous tout à fait ouvert pour gagner des parts de marché, à la fois en transaction, mais également à la fois, j'en parlais aussi, vous en parlez, en copropriété. Parce qu'on a vu un certain nombre de start-up, on va les appeler comme ça, qui ne sont pas des syndics, qui ne sont pas de véritables professionnels, proposer aux particuliers des assistances de gestion. Et de plus en plus maintenant dans nos cabinets, nous voyons revenir ces copropriétaires-là vers de vrais professionnels. Parce que gérer un immeuble, on ne peut pas faire ça d'une manière tout à fait artisanale et sans aucune formation derrière.
Et on voit une fois de plus que ces startups qui devaient tout casser, tout révolutionner, bah, finalement elles mettent leurs services au profit. Elles sont en train de pivoter aussi parce que le modèle, elle s'aperçoit que ce n'est pas si évident que ça.
Oui, ils sont en train de...
Alors, la copropriété, vous connaissez ça par cœur. Vous êtes président métier copropriété de l'Unicil de France Grand Paris. François-Emmanuel Borel, là, pour faire suite à ce que vient de dire Jean-Luc Lyoto, c'est vrai que c'est un enjeu de taille, hein, pour les copropriétés aussi de continuer à innover sur ce marché et à s'emparer aussi de ces nouveaux outils numériques. Pas la peine de laisser aux startups, on peut tout à fait le faire.
Non, mais je pense qu'en fait, déjà, les syndics sont bien appropriés les outils. Oui. On a des plateformes qui sont extrêmement performantes, qui offrent tous les services qu'attendent les copropriétaires, que ce soit pour payer en ligne, que ce soit pour donc consulter leur compte, mais aussi tous les documents qui concernent la copropriété. Le conseil syndical a un accès très aidant et étendu, puisqu'en fait, il a une transparence totale au niveau de la comptabilité, que ce soit sur la production des factures, l'établissement même préalable des états de dépenses. Et au-delà de ça, maintenant, le copropriétaire peut assister à une assemblée générale en visio, voter en visio. Le conseil syndical peut même élaborer de concert avec le syndic l'ordre du jour de façon dématérialisée à tout moment, 24h sur 24, et peut nous interpeller, modifier des projets. Donc on est vraiment à l'avant-pointe de ces technologies. Pour autant, le métier restera un métier humain et ça, on ne pourra pas le remplacer. Et c'est en cela que ces start-up finalement ne peuvent pas nous concurrencer. On fait vraiment autre chose.
Elles peuvent, j'ai l'impression, surtout vous.
De challenger.
Julie Joannin, on a un espace start-up là, qui est juste à quelques pas de nous, au moins un, avec par exemple cette société dont on vient de parler sur Radio Immo, Pilo, qui simplifie la gestion locative des pros, je la cite, mais il y en a d'autres. C'est surtout, ils continuent à innover, à proposer des solutions qui sont pour gagner du temps et bien sûr, au passage, pour faciliter la vie aussi des locataires. C'est important aussi d'avoir cet écosystème avec des grandes, des petites, des moyennes sociétés et puis des start-up qui tentent des trucs aussi.
C'est très important. À partir du moment où le but principal, c'est que le client final, c'est-à-dire que nos clients soient satisfaits, moi, je trouve ça très bien. Après, effectivement, nous, on a quand même des métiers. Il faut savoir se digitaliser. Comme tu disais tout à l'heure, Jean-Luc, comme tu disais aussi, Benjamin, il ne faut pas confondre non plus vitesse et précipitation. Il y a des fois des demandes qui demandent plus de temps. On ne peut pas réagir dans la minute.
Oui.
C'est pas vrai. Il y a des choses qui posent question. Être un bon professionnel, c'est accompagner au mieux et bien comprendre les demandes et les attentes de vos clients. Et donc ça, des fois, ça demande un peu plus de temps que...
Benjamin Darmouni, c'est vrai que, pour faire suite à ce que dit Julie, on est dans un temps qui se réduit, qui est de plus en plus court, hein, que ce soit pour les entreprises, mais pour les particuliers, on est dans le mythe de l'instantanéité.
C'est l'immédiateté de l'action, de la réaction. Il faut aller vite, toujours plus vite. Et on oublie qu'avant d'aller vite, il faut peut-être réfléchir à ce qu'on fait. C'est super d'envoyer une information à un client. Mais si cette information, elle n'est pas qualifiée, ou si elle est erronée, nous, ça nous pose, en tant que professionnels, un vrai problème. Peut-être qu'à d'autres, ça ne pose pas de problème. Parce qu'en fait, si on envoie 1 million d'informations et que finalement, il y en a 1000 de fausses, bon, finalement, ce n'est pas très grave. Et bien pour nous, c'est très, très grave. Parce que nous, on a été formés pour ça. On a une carte professionnelle. On a une responsabilité civile professionnelle. Et donc, on ne peut pas envoyer une fausse information. Donc, effectivement, il faut contrôler le million d'informations qu'on envoie. Parce qu'on veut éviter les 1000 erreurs. Bien aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on envoie de l'information, et même de temps en temps, quand c'est de la fake news, c'est pas grave, ça, au pire, ça fait du buzz.
Alors sans ça, mais je suis d'accord avec vous, communication n'est pas forcément information.
Non.
Pour autant, c'est intéressant d'avoir ces systèmes, de voir qu'il y a un chat finalement qui est organisé où tous les copropriétaires peuvent se connecter par exemple, et où on voit pour un problème de porte de parking, d'ascenseur, etc., qu'est-ce qui est en train d'être fait. C'est-à-dire qu'à un moment, ces solutions, puisqu'on parle de l'avenir de ces professions, il faut s'y mettre, il faut utiliser. Puisque les syndics en particulier ont été moqués un petit peu par ces start-up qui on dit, vous êtes un peu ringard, on va faire mieux. Jean-Luc Lyoto.
Je pense qu'il ne faut pas confondre dans l'immédiateté de la réponse deux choses. Il y a l'immédiateté de la réponse quand l'ascenseur est en panne, quand le chauffage est arrêté, etc. Et là, ça ne demande pas une réflexion. C'est instantané, action-réaction. On avertit nos clients que le dépanneur va venir, que l'ascenseur va être réparé, etc., etc. Ça, c'est du technique, c'est normal. Après, il y a, dans le cadre de la profession, ce qu'on appelle le parcours résidentiel. Et le parcours résidentiel, c'est du conseil. Ce n'est pas « donnez-moi votre bien, je vais le vendre n'importe comment, je vais gérer votre copropriété ». Non, le parcours résidentiel, c'est important, c'est toute une vie pour un copropriétaire, et surtout pour les jeunes générations. Ça doit s'accompagner avec une réflexion sur tous les métiers, sur l'investissement, l'amortissement, la gestion de la famille, ça touche le notariat, ça touche... Vous voyez ce que je veux dire ?
Ça touche le patrimoine. Julien, vous avez parlé d'humain.
Oui, mais c'est exactement ce que j'allais vous dire, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'à un moment, quand on vous donne un contrat de syndic ou quand on vous donne un mandat exclusif de vente, c'est pas une machine qu'on donne ce contrat-là, c'est à une personne, à un être humain, à un professionnel. Et nos clients, c'est un travail qui se base principalement sur la confiance. C'est très important. On vit dans l'intimité de nos clients, que ce soit dans leur copropriété, que ce soit dans leur chez-eux, dans leur mise en vente, dans leur mise en location. Et ils ont besoin de ce rapport-là. Alors oui, quand il y a un problème, ils ont besoin que ce soit réactif, mais ils savent tout à fait et ils préfèrent attendre quand ils ont un problème. Ils veulent nous avoir au téléphone, ils veulent nous joindre, ils veulent être accompagnés. Et ça, la relation qu'on a avec nos clients, l'humain, c'est vraiment le pilier.
Et vendeur, acquéreur, bailleur, locataire, copropriétaire, âgé, jeune, nouvel accédant, en fait, on est là pour concilier des intérêts divergents, de se rapprocher deux points de vue qui, a priori, n'étaient pas forcément conciliables initialement. Donc ça ne peut se faire que par le dialogue. C'est pas en allant sur Internet qu'on est rassuré. Au contraire, on est confirmé dans ses propres opinions et ça ne nous permet pas de nous rapprocher des autres, finalement.
Et moi, je dirais qu'effectivement... c'est là où on voit que la digitalisation a quand même ses limites, en ce sens que être réactif par rapport à besoin d'information d'un locataire, d'un copropriétaire ou d'un acquéreur éventuellement, oui, pourquoi pas. Mais on se rend compte aujourd'hui à l'usage que les assemblées générales par correspondance, ça a ses limites. Ça avait une utilité, ça avait une raison d'exister pendant la crise. Mais aujourd'hui, nous n'avons plus, pour ces copropriétés-là, de débat. Nous n'avons plus d'explications en direct.
Ça veut dire que les gens reviennent, vous les incitez à revenir en physique ?
Et ils reviennent. Et ils reviennent en physique parce qu'ils ont besoin de se voir déjà une fois par an, parce que chacun court après le temps et dans la vie de la copropriété, ils n'ont pas toujours le temps de communiquer entre eux. Et deux, lorsque vous allez discuter, surtout maintenant avec les enjeux, je dirais, de performance énergétique, etc., nous avons un devoir pédagogique, nous avons un devoir d'explication. C'est très compliqué pour les copropriétaires. Et ça ne peut pas se faire avec de l'écrit par correspondance.
Benjamin Harmony, vous nous aviez signalé effectivement que vous avez fait des milliers d'AG de copro, évidemment, mais là, il y a un besoin d'être ensemble. Hein. Je rejoins ce que disait tout à l'heure Julie Joannin, un besoin d'humain, de se retrouver, même pour parler de sujets des fois qui fâchent. Peut-être
on,
surtout.
On est absolument pas contre, et bien au contraire, l'évolution de la création de nouveaux outils dans l'intérêt de nos clients. Mais le lien social, le contact, ne pourra jamais être un compte WhatsApp. Ça ne sera jamais comme ça. Et clairement, aujourd'hui, nos clients sont demandeurs de contacts, de liens et de se revoir. Parce que la crise ils se sont retrouvés seuls chez eux et les a isolés, c'est le terme que je cherchais, les a isolés et donc aujourd'hui, ils veulent en sortir et ils veulent du lien.
Je voudrais parler technicité, pour de matière expertise de vos métiers. On sait justement que on le disait tout à l'heure, hein, ce sont des métiers où il faut une bonne connaissance, la formation est très importante. Est-ce que c'est un axe pour l'UNIS pour renforcer encore cette excellence dans vos professions ?
C'est le signe même d'un syndicat professionnel, former, informer. C'est la base même de ce que.
Et j'irai plus loin pour se différencier aussi, parce qu'aujourd'hui, comme je disais, il y a beaucoup de gens. C'est un peu la poule aux œufs d'or, en tout cas des métiers très attractifs. On peut gagner beaucoup d'argent dans la transaction notamment, mais pas seulement.
Oui.
Et on voit quand même que, au bout d'un moment, il faut trier aussi le bon grain de livret. Tout le monde n'est pas apte à faire ce métier. Et ça passe notamment par la formation. Jean-Luc Leto.
Absolument. La formation, c'est devenu le fer de lance, je dirais, de notre profession et de cette nouvelle génération. Puisque au niveau de l'UNIS, nous développons maintenant nos propres services d'information et de formation des professionnels. Et ça, je pense que c'est quand même un atout essentiel pour nos clients de savoir qu'ils peuvent s'adresser à de vrais professionnels qui sont formés et qui ne vont pas leur vendre de la poudre aux yeux.
la poudre de perlimpinpin.
De la poudre en perlimpinpin, cherchez moi, je vous
remercie.
Ouais.
Non,
mais c'est vrai, c'est bien beau, on communique, mais derrière, souvent, il n'y a rien.
Est-ce que ça veut dire qu'à l'UNIS, vous triez, ou j'allais dire encore une fois, vous nommez des experts pour faire ces formations? Les adhérents, ils peuvent s'adresser, se dire, tiens, voilà, moi, je voudrais me professionnaliser dans la gestion locative, je voudrais demain faire grossir mon cabinet. Est-ce que, à qui je m'adresse? Là, il y a des solutions?
Un plus.
C'est ça.
Parce
on
que
a,
personne n'a dit non.
Notre
organisme s'appelle Un Plus. Jean Berthoz a fait un travail formidable. On a un cahier de formation qui est énorme, évidemment Un Plus. Et on incite tous les professionnels. Déjà, c'est une obligation pour la carte professionnelle, je le rappellerai, 14 heures par an. Mais bon, ça, ce n'est qu'un détail. Parce qu'en fait, on ne réalise pas 14 heures par an. On ne répond pas seulement à l'obligation qu'on nous impose. On se forme parce qu'on a plaisir à le faire, parce qu'on veut être encore plus compétent dans nos professions. Et c'est ce qu'on explique tous les jours à nos adhérents.
Et surtout parce que c'est une matière mouvante qui change sans cesse.
Évidemment.
Il y a aussi, on a parlé tout à l'heure, on nous a dit, est-ce que vous allez avoir un label propre à vous, à l'UNIS? Mais l'UNIS, en soi, c'est notre label. Parce qu'on a tout cet engagement, on a notre propre organisme de formation, c'est des choses qui sont très importantes pour nous. Et nous, en tant que président, que ce soit de pôle ou de structure, on a un lien, pas quotidien, mais alors... très rapprochés avec tous nos adhérents. On organise ces formations et voilà, ça c'est vraiment notre fer de lance.
Donc c'est un axe fort aussi pour 2023, renforcer ces formations, cet axe de professionnalisation. Quels sont les autres axes? Parce que là, voilà, on est sur le bilan 2022 et les perspectives. On parle de l'avenir, mais ça, on sait que ça va être... Tiens, est-ce que vous êtes inquiet pour question un peu d'actualité? Parce qu'on arrive au terme d'une année qui a été à nouveau exceptionnelle, plus d'un million de transactions. Ça va très bien pour l'immobilier, mais des nuages planent à l'horizon. Est-ce que vous êtes inquiet?
Attendez, là, je crois qu'il fallait écouter Daniel Dubrac, en fait, tout à l'heure. On a des vrais sujets de préoccupation. Là, vous avez évoqué là, à l'instant la rémunération, mais elles sont bloquées, les rémunérations, pour beaucoup de sujets, pour les mises en location, pour les états datés. Tout ça devait être indexé depuis, je crois, 2014. On n'a pas eu de variation. Pourtant, le coût de la vie a bien augmenté. C'est se défaire d'une réalité qui ne permet pas de rémunérer correctement les collaborateurs qui travaillent. C'est complètement injuste.
Et il n'y a pas de moyen d'ajustement de mécanisme.
Aucun. Il n'y en a aucun. Bloqué. Donc, en fait, là, la poule aux œufs d'or, enfin, je ne sais pas quelle expression vous avez utilisée. Moi, ça m'interpelle un peu.
C'est pour l'attractivité des métiers, je parle.
Oui, ouais, mais justement... Justement, l'attractivité passe aussi par une rémunération qui est correcte pour le collaborateur, qui est décente.
Aujourd'hui, elles sont bloquées.
Juste.
Et du coup, elles diminuent. Donc
ça, c'est un sujet. Autre sujet, la rénovation énergétique. On a un calendrier qui est absurde. Intenable. On ne cesse de le dire, aussi bien dans l'ordre chronologique des documents que nous devons faire établir. C'est-à-dire qu'avoir un DPE individuel, c'est une chose, mais on n'a même pas encore construit le DPE collectif. Qui pourrait substituer, qui pourrait faire des économies aux Français. C'est absurde. C'est vraiment... je pense qu'on a vraiment raté une cible. Donc nous, on demande à ce qu'il y ait... Daniel l'a très bien cité. On demande à ce qu'il y ait un changement du calendrier, aussi bien dans la chronologie que dans ses échéances. D'accord. Parce que, en fait, pour atteindre un objectif, il faut qu'il soit raisonnable. Or, si on met un mur devant cet objectif, personne n'essaiera même d'essayer de monter la première marche.
D'autant que nous avons affaire à des copropriétaires. Copropriétaires, ça veut dire une assemblée générale par an. Donc la vie de la copropriété est quand même rythmée par une réunion tous les 12 mois. Donc c'est très compliqué de faire avancer les choses une fois tous les 12 mois par l'assemblée du copropriétaire. Et qui plus est, aujourd'hui, nous n'avons pas sur le marché suffisamment de possibilités de consulter ce qu'on appelle des AMO, hein, des assistances maîtrise d'ouvrage ou autres, pour préparer ces plans pluriannuels de travaux, etc., etc. Et une fois de plus, non seulement beaucoup vont passer à travers les mailles du filet, mais on risque d'avoir un travail bâclé. Alors qu'on engage l'avenir pour 20 ans, 25 ans, et il est quand même important de prendre le temps de bien préparer les dossiers, de ne pas faire n'importe quoi. Et là, je dirais qu'on est dans l'ère de la modernité, mais on est confronté derrière à une bureaucratie qui n'évolue pas. La loi Hoguet, nous sommes contraints, nous, par la loi Hoguet, à certaines obligations, et c'est très bien. Malheureusement, il y en a encore qui passent au travers des mailles du filet, et je dirais, c'est l'ubérisation du métier. Il y en a qui font notre métier en l'appelant syndic, gestion, transac, alors que c'est pas vrai. Et ensuite, la législation. Quand vous pensez que la loi qui réglemente la copropriété date de 1965, qu'en gestion locative, la loi de 1948 n'est toujours pas abrogée. Alors, on parlait tout à l'heure, effectivement, de gens Asbin et autres, mais là, on a un vrai besoin de toilettage et de modernité législative à ce niveau-là.
D'écoute, parce que tu dis, la bureaucratie, elle n'évolue pas. En fait, moi, je pense qu'elle évolue et qu'elle évolue très mal. Elle a décidé de réfléchir à notre place, en fait. Oui. Et si vous voulez, c'est là où on a un blocage.
C'est l'énorme
venu
d'en haut.
Parce qu'un client, il n'a jamais eu un problème pour payer un service. Il faut arrêter de croire que les particuliers n'ont pas envie de payer des honoraires, n'ont pas envie de payer des prêts à dater, n'ont pas envie de payer des honoraires de transaction. Non, le client final, celui qui achète, il a son service, hop, c'est englobé. Les gens ont envie de payer, mais pour un vrai service. Donc ça, c'est le premier point. Donc il faut arrêter de leur mettre ça dans la tête, c'est faux. Le deuxième point, comme tu dis, il y a des évolutions sur ce DPE. Enfin, c'est aberrant. C'est vraiment qu'on n'a pas réfléchi au problème. Donc nous, on continuera à le scander et on continuera jusqu'à qu'on y arrive à prôner la réalité de nos métiers, c'est tout.
On finit le tour de Timon.
Oui, on finit le tour de table. Fabrice, notre horizon est évidemment sombre parce que le contexte est inquiétant. Mais parce qu'on est ici le jour de notre congrès, on va rester sur une note positive, on est heureux, on est optimiste. On reçoit nos adhérents, on reçoit nos partenaires. C'est deux jours de partage, un moment privilégié et on est tous très très contents d'être ici.
Alors très contents, et j'ajouterais même, je trouve, c'est peut-être les leçons de cette crise sanitaire que finalement on a que vous avez surmonté. Je trouve qu'il y a aussi un certain dynamisme, voire même pessimisme peut-être pour l'environnement macro, mais au niveau des entreprises, je trouve qu'il y a un énorme dynamisme et on sent la confiance, en tout cas l'énergie qui se dégage justement dans ces congrès et en vous rencontrant les uns et les autres. Donc on vous souhaite un bon vent pour 2023. On continuera à en discuter bien évidemment sur l'antenne de Radio Immo de tous ces sujets passionnants. Un grand merci à vous tous, Julie Janin, Jean-Luc Liotot, Benjamin Harmonie et François-Emmanuel Borel. À très bientôt
et
sur Radio Immo.
Merci de nous avoir invités.
Merci Fabrice.
Le 13e congrès de l'UNIS du 14 au 16 décembre 2022 à Pau sur Radio Immo.